Émile Zola, Nouveaux contes à Ninon, septième nouvelle. Mon voisin Jacques. Chapitre 1. J'habitais alors rue Gracieuse, le grenier de mes 20 ans. La rue Gracieuse était une ruelle escarpée qui descend la butte Saint-Victor derrière le jardin des plantes. Je montai 2 étages. Les maisons sont basses en ce pays, m'aidant d'une corde pour ne pas glisser sur les marches usées. Et je gagnai ainsi mon taudis dans la plus complète obscurité. La pièce, grande et froide, avait les nudités, les clartés blafardes d'un cerveau. J'ai eu pourtant des clairs soleils dans cette ombre, les jours où mon cœur avait des rayons. Puis, il me venait des rires de gamine du grenier voisin, qui était peuplé de toute une famille. Le père, la mère et une bambine de 7 à 8 ans. Le père avait un air anguleux, la tête plantée de travers entre 2 épaules pointues. Son visage osseux était jaune, avec de gros yeux noirs enfoncés sous d'épais sourcils. Cet homme, dans sa mine lugubre, gardait un bon sourire timide. On eût dit un grand enfant de 50 ans, se troublant, rougissant comme une fille. Il cherchait l'ombre, filait le long des murs avec l'humilité d'un forçat gracié. Quelques saluts échangés m'en avaient fait un ami. Je me plaisais à cette face étrange, pleine de bonhomie inquiète. Peu à peu, nous en étions venus aux poignées de main. Chapitre 2. Au bout de 6 mois, j'ignorais encore le métier qui faisait vivre mon voisin Jacques et sa famille. Il parlait peu. J'avais bien, par pur intérêt, questionné la femme à 2 ou 3 reprises. Mais je n'avais pu tirer d'elle que des réponses évasives, balbutiées avec embarras. Un jour, il avait plu la veille et mon cœur était endolori. Comme je descendais le boulevard d'Enfer, je vis venir à moi un de ces parias du peuple ouvrier de Paris. Un homme vêtu et coiffé de noir, cravaté de blanc, tenant sous le bras la bière étroite d'un enfant nouveau-né. Il allait, la tête basse, portant son léger fardeau avec une insouciance rêveuse, poussant du pied les cailloux du chemin. La matinée était blanche. J'eus plaisir à cette tristesse qui passait. Au bruit de mes pas, l'homme leva la tête, puis la détournant vivement, mais trop tard, je l'avais reconnu. Mon voisin Jacques était croque-mort. Je le regardais s'éloigner, honteux de sa honte. J'eus regret de ne pas avoir pris l'autre allée. Il s'en allait, la tête plus basse, se disant sans doute qu'il venait de perdre la poignée de main que nous échangeions chaque soir. Le lendemain, je le rencontrai dans les escaliers. Il se rangea peureusement contre le mur, se faisant petit, petit, ramenant avec humilité les plis de sa blouse pour que la toile n'en touchât pas mon vêtement. Il était là, le front incliné, et j'apercevais sa pauvre tête grise, tremblante d'émotion. Je m'arrêtai, le regardant en face. Je lui tendis la main, toute large. Il leva la tête, hésita, me regarda en face à son tour. Je vis ses gros yeux s'agiter et sa face jaune se tacher de rouge. Puis, me prenant les bras brusquement, il m'accompagna dans mon grenier, où il retrouva enfin la parole. « Vous êtes un brave jeune homme, » me dit-il. « Votre poignée de main vient de me faire oublier bien des regards mauvais. » Et il s'assit, se confessant à moi. Il m'avoua qu'avant d'être de la partie, il se sentait, comme les autres, pris de malaise lorsqu'il rencontrait un croque-mort. Mais depuis ce temps, dans ses longues heures de marche, au milieu du silence des convois, il avait réfléchi à ces choses. Il s'était étonné du dégoût et de la crainte qu'il soulevait sur son passage. J'avais 20 ans alors. J'aurais embrassé un bourreau. Je me lançais dans des considérations philosophiques, voulant démontrer à mon voisin Jacques que sa besogne était sainte. Mais il haussa ses épaules pointues, se frotta les mains en silence, en reprenant de sa voix lente et embarrassée. « Voyez-vous, monsieur, les cancans du quartier, les mauvais regards des passants m'inquiètent peu. Pourvu que ma femme et ma fille aient du pain, une seule chose me taquine, je n'endors pas la nuit quand j'y songe. Nous sommes, ma femme et moi, des vieux qui ne sentons plus la honte. Mais les jeunes filles, c'est ambitieux. Ma pauvre Marthe rougira de moi plus tard. À 5 ans, elle a vu un de mes collègues et elle a tant pleuré. Elle a eu si peur que je n'ai pas encore osé mettre le manteau noir devant elle. Je m'habille et je me déshabille dans l'escalier. J'eus pitié de mon voisin Jacques. Je lui offris de déposer ses vêtements dans ma chambre et d'y venir les mettre à son aise, à l'abri du froid. Il prit 1000 précautions pour transporter chez moi sa sinistre défroque. À partir de ce jour, je le vis régulièrement, matin et soir. Il faisait sa toilette dans un coin de ma mansarde. Chapitre 4. J'avais un vieux coffre dont le bois s'émiettait, piqué par les vers. Mon voisin Jacques en fit sa garde-robe. Il en garnit le fond de journaux, il y plia délicatement ses vêtements noirs. Parfois, la nuit, lorsqu'un cauchemar m'éveillait en sursaut, je jetais un regard effaré sur le vieux coffre qui s'allongeait contre le mur en forme de bière. Il me semblait en voir sortir le chapeau, le manteau noir, la cravate blanche. Le chapeau roulait autour de mon lit, ronflant et sautant par petits bonds nerveux. Le manteau s'élargissait et agitant ses pans comme de grandes ailes noires, volant dans la chambre, ample et silencieux. La cravate blanche s'allongeait, puis se mettait à ramper doucement vers moi, la tête levée, la queue frétillante. J'ouvrais les yeux démesurément, j'apercevais le vieux coffre immobile et sombre dans son coin. Chapitre 5. Je vivais dans le rêve à cette époque, rêve d'amour, rêve de tristesse aussi. Je me plaisais à mon cauchemar. J'aimais mon voisin Jacques parce qu'il vivait avec les morts et qu'il m'apportait des âcres senteurs de cimetière. Il m'avait fait des confidences. J'écrivais les premières pages des mémoires d'un croque-mort. Le soir, mon voisin Jacques, avant de se déshabiller, s'asseyait sur le vieux coffre pour me conter sa journée. Il aimait à parler de ses morts. Tantôt c'était une vieille fille, la pauvre, morte poitrinaire, ne pesait pas lourd. Tantôt c'était un vieillard, ce vieillard dont le cercueil lui avait cassé le bras, était un gros fonctionnaire qui devait avoir emporté son or dans ses poches. Et j'avais des détails intimes sur chaque mort. Je connaissais leur poids, les bruits qu'ils s'étaient produits dans les bières, la façon dont il avait fallu les descendre au coude des escaliers. Il arriva que mon voisin Jacques, certains soirs, rentra plus tard et plus épanoui. Il s'appuyait au mur, le manteau agrafé sur les épaules, le chapeau rejeté en arrière. Il avait rencontré des héritiers généreux qui lui avaient payé les litres et les morceaux de brie de la consolation. Et il finissait par s'attendrir. Il me jurait de me porter en terre lorsque le moment serait venu, avec une douceur de main tout amicale. Je vécus ainsi plus d'une année en pleine nécrologie. Un matin, mon voisin Jacques ne vint pas. 8 jours après, il était mort. Lorsque 2 de ses collègues enlevèrent le corps, j'étais sur le seuil de ma porte. Je les entendis plaisanter en descendant la bière, qui se plaignait sourdement à chaque heure. L'un d'eux, un petit gras, disait à l'autre, un grand maigre, « Le croque-mort est croqué ».